Sélection des œuvres de Francis Raugel. Francis Raugel, 1618-1669, reçut une éducation universitaire en préparation au ministère épiscopalien. Il devint ministre dans l'Église épiscopale, mais il la quitta ensuite, insatisfait de la superstition qu'il voyait y subsister, et se joignit à des indépendants, parmi lesquels il devint enseignant. Manquant toujours du réconfort spirituel, après lequel son âme avait soif, il alla parmi les anabaptistes, pensant qu'il marchait davantage selon l'évangile du Christ. Il demeurait pourtant privé de cette paix intérieure qu'il désirait si ardemment, et finalement, vers sa 34e année, il se joignit à la société persécutée appelée Quakers, parmi lesquels il devint un membre et un évangéliste largement respecté. En prison, il mourut comme un noble martyr de la vérité, après avoir été un ministre éminent pendant 16 ans, laissant un récit de ses écrits et de ses souffrances. Le mémoire sur ce site détaille sa vie et ses expériences. Écrite de prison, anticipant sa mort, se trouve une lettre précieuse à sa jeune fille, où il expose les conseils de vie et de conduite les plus remarquables que j'ai jamais lus, dont l'action principale suivante pour la réussite chrétienne, et comment dois-tu chercher Dieu. Je t'informe que tu dois faire taire toutes tes propres pensées et tourner ton esprit vers ce qui est pur, saint et bon en toi-même, et chercher et attendre en cela, dans la lumière de Jésus-Christ par laquelle tu es éclairé, laquelle te montre quand tu fais le mal, et te retient et te reprend. Prends garde à cela, et cela te montrera tes mauvaises inclinations et pensées, et à mesure que tu l'aimeras, cela les détruira et te préservera, pour l'avenir, de sortir du mal. Ce qui suit compte parmi les écrits doctrinaux les plus instructifs et les plus déterminants que l'éditeur de ce site ait trouvé parmi tous les premiers écrits Quakers. Chapitre y abrégé d'un essai intitulé « Quelques mystères du royaume de Dieu déclarés ». Au lecteur, autrefois dans la nuit de l'ignorance, depuis les jours des apôtres, beaucoup ont tâtonné dans les ténèbres comme des aveugles, et sortant d'une épaisse obscurité, ils ont parlé obscurément des choses de Dieu et de son royaume, ils ont écrit au sujet des choses de Dieu et de son royaume, et ont nourri les esprits ténébreux de nombreux hommes qui ne sont pas convertis à Dieu. Je vois combien de personnes sont confuses dans leurs pensées, se trompent en jugement, et ont perdu la clé de la connaissance, laquelle devrait donner entrée dans les mystères du royaume de Dieu et ouvrir leur cœur. C'est pourquoi, par compassion pour ceux qui ont soif du Seigneur, et pour l'amour de ceux qui n'ont aucun lieu de repos, j'ai écrit ces choses telles qu'elles m'ont été révélées, et en moi, par son pur esprit. Et si vous sortez du monde qui gît dans la méchanceté, et si vous attendez dans la manifestation de l'Esprit, vous les verrez comme étant la vérité. Je n'ai pas écrit pour plaire à des hommes au cœur corrompu, qui se glorifient de mots et d'apparence extérieure, de dons et de son naturel, et se sont égarés loin de la vie, mais j'adresse ceci au cœur simple, et pour fortifier les faibles. Ce que vous voyez dans le discours suivant et avec quoi vous ne pouvez vous accorder, laissez-le, et ne jugez rien avant le temps, dans la sagesse qui est terrestre astérisque, mais c'est par celle de Dieu en vous que je désire être approuvé, et par rien d'autre. Je suis votre ami dans la vérité, et je souhaite du bien à tous les hommes. Francis Raugel, astérisque commentaire de l'éditeur du site. Raugel a écrit, « Ce que vous voyez dans le discours suivant et avec quoi vous ne pouvez vous accorder, laissez-le, et ne jugez rien avant le temps, dans la sagesse qui est terrestre. » Ce que je crois qu'il veut dire est ceci. Les explications détaillées qui suivent, données par Francis Raugel au sujet du royaume, du jour du Seigneur, et des opérations de l'Esprit de Dieu, etc., seront nouvelles et étranges pour certains d'entre vous. Mais si vous attendez Dieu en le cherchant comme la priorité la plus élevée de votre vie, mettez simplement de côté, dans votre esprit, vos réserves et attendez que la sagesse de Dieu vous aide à comprendre. J'ai fait de même plusieurs fois, et en quelques jours j'ai reçu une compréhension venue comme une révélation, généralement lorsque je n'étais pas en train d'attendre Dieu, mais simplement de travailler au fil de la journée tout en pensant à mes réserves. Soudain, j'ai compris ce qui, pour moi, était douteux. Votre compréhension peut aussi résulter de la lecture d'autres écrits Quakers anciens remarquables sur ce site, dont plusieurs confirment une grande part des merveilleuses paroles que vous lirez ci-dessous. Section I. Quelques mystères du royaume de Dieu déclarés. Le Seigneur Dieu de toute la terre, qui vit pour toujours, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, dont le trône est établi dans la justice, qui chevauche sur les cieux et resplendit dans son excellence éternelle depuis le firmament de sa puissance, se manifeste comme au jour ancien et révèle sa justice comme dans les années passées. Il répand son esprit sur ses fils et sur ses filles, selon sa promesse, et la bénédiction des collines éternelles. Le Seigneur, qui apparut au Sinaï dans le buisson ardent à Moïse, son serviteur, qui se leva du mont Séir et resplendit de sa clarté depuis le mont Paran, et qui vient avec des myriades de ses saints, celui-là même de la main droite duquel sortit une loi de feu de sorte que le peuple ne pouvait contempler sa gloire, est maintenant apparu en ce jour, le jour de sa puissance, et il apparaît, dont l'éclat ternira toute la gloire du monde et flétrira sa sagesse, et l'enfermera dans d'épaisses ténèbres. L'ombre de la mort s'enfuira, et tous les princes orgueilleux et hautains de ce monde seront saisis d'une effroyable frayeur. Les bêtes rentreront dans leur tanière lorsque le jour paraîtra, et les agneaux de l'enclos éternel sortiront, et seront nourris dans les vallées grasses, où les sources de la vie entourent toutes les rives. Ils se réjouiront dans leur berger, et diront « Le Seigneur est mon berger », ce que beaucoup en ce temps, qui ont vu ces merveilles comme au jour ancien, et ces actes nobles dont les pères ont parlé, lesquels se sont endormis. Dieu amène maintenant beaucoup à voir comme vraies les choses dont ceux-là ont rendu témoignage, et à voir ces choses s'accomplir pareillement en eux-mêmes. Honneur et louange à lui pour toujours, qui est l'appui et la force de tout son peuple à jamais. Le jour du Seigneur s'est levé, et la lumière est apparue qui manifeste toutes les choses répréhensibles, et l'étoile du jour s'est levée dans le cœur de beaucoup. Ce jour, lorsqu'il apparaît, découvre toutes choses et rend toutes choses manifestes à ceux à qui il apparaît, comme le déclare l'Esprit de vérité dans les Écritures de vérité, et l'œuvre de chacun sera éprouvée pour savoir de quelle sorte elle est. Et ce jour est apparu à beaucoup qui l'ont attendu, louange au Seigneur. Et maintenant il voit toutes choses dans son fondement et son surgissement. Et chaque arbre et son fruit sont vus selon leur espèce, bon ou mauvais, et l'œuvre de chacun est évidente pour tous ceux qui sont dans le jour, sur qui l'aurore de justice est apparue et sur qui le soleil de justice a resplendi. Par là, ce qui est répréhensible et condamnable en chacun est vu, et aussi ce qui est justifiable et irrépréhensible. Section I. Ce qu'est le jour du Seigneur, comment il est vu, et à qui il est apparu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste révélé en eux, car Dieu le leur a montré. Rome 1, 19. Dieu est esprit, son jour est spirituel et se voit avec un œil spirituel. C'est une lumière pure, une clarté pure, le pur rayonnement du Seigneur dans son excellence glorieuse, la sainteté se répandant au loin dans sa gloire, la pureté s'étendant dans son excellence sans mesure. Il ne peut être vu tel qu'il est en lui-même que par les enfants de la lumière qui en sont nés. Le jour naturel reçoit sa clarté du soleil, le jour spirituel reçoit sa clarté du soleil de justice, par qui il est produit, qui le fait jaillir d'en haut, lui qui est la fontaine de vie, sans qui rien n'a été ni n'est fait. De même que le jour naturel reçoit sa netteté du soleil naturel, et discerné par l'œil naturel de l'homme naturel, et que toutes les choses naturelles sont vues et découvertes par et dans le jour naturel, et sont évidentes pour celui qui a la vue de même, depuis le soleil de justice, le Seigneur de gloire, de lumière et de pureté, le jour de Dieu reçoit sa clarté, et il est discerné par l'œil spirituel de l'homme spirituel, qui est à l'image du Père, engendré dans la vie par Dieu le Père de la vie, par Christ Jésus. Telle est la naissance d'en haut, qui est de la nature du Père, du Fils et du jour. Seul celui qui est de cette naissance vient à contempler ce jour, et par lui discerne toutes choses du royaume du Père, ainsi que les choses cachées de la malhonnêteté et les œuvres des ténèbres, que fait naître le prince des ténèbres, lequel est enfermé dans des ténèbres éternelles et absolues. Telle est sa demeure, et elle le sera à jamais, ainsi que celle de tous les ouvriers d'iniquité qui portent son image. Pourtant, certains pourraient dire que ce jour n'est apparu à personne en cette époque. Mais si un homme naturellement aveugle disait qu'il n'y a pas de lumière dans le jour ni dans le soleil, parce qu'il n'en voit aucune, n'y aurait-il donc aucune lumière dans le jour ni dans le soleil? Et si toute chose lui était pareille, jour et nuit, de sorte qu'il ne puisse distinguer l'un de l'autre, cela annule-t-il la prétention de ceux qui ont des yeux naturels et qui voient à la fois le soleil et le jour? Et si ceux qui sont spirituellement aveugles et qui sont enfants de la nuit disent qu'ils ne voient rien du jour du Seigneur, ni de la révélation des choses de Dieu, ni de sa glorieuse apparition, dont beaucoup rendent témoignage, cela rend-il vaine la vue de ceux qui ont vu dans les choses du royaume de Dieu? L'incrédulité de certains n'annule pas la foi de ceux qui croient, que Dieu nous en garde. Judas lui dit non pas l'Iscariote, « Seigneur, pourquoi as-tu l'intention de te montrer à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mon enseignement, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 18-23 Section I. Ce qu'est le jour du Seigneur, et ce qu'il sera pour les méchants les non-purifiés. Bien que le jour du Seigneur soit une lumière pure et une clarté pure, et ne se mêle pas à la nuit, qui est de nature contraire, il est pourtant pour les méchants un jour de noirceur et de ténèbres, un jour terrible et redoutable, eux qui haïssent son apparition et haïssent la lumière, enfants du mensonge et de la tromperie, dont les œuvres sont mauvaises. Il les montre, eux et leurs œuvres, comme il est écrit en Job 24, 17, le matin est pour eux comme l'ombre de la mort. L'apparition du Seigneur les effraie, ils voudraient fuir comme un voleur qui perce un mur et force une maison de nuit, quand un profond sommeil est sur les hommes, un tel homme mauvais a peur lorsque le jour paraît et découvre ses actes. Le jour du Seigneur surprendra ceux qui vivent sans frein sur la terre, dont le cœur est tourné vers la recherche de la méchanceté comme d'un trésor caché, il viendra sur eux comme un voleur. Eux, étant enfants de la nuit et produisant des fruits de ténèbres, auront leur part dans les ténèbres absolues. Ainsi périront les impies et auront leur part avec les hypocrites. Pensez à ceci, vous tous qui vitupérez et outragez la lumière et l'apparition de Dieu, et repentez-vous. Car comme la naie sauvage qui hume le vent à son gré, et ceux qui la cherchent ne se fatiguent pas à sa poursuite, mais le temps vient où elle sera trouvée et prise, ainsi en sera-t-il de tous les impies. Même s'ils courent comme une ânesse sauvage et tracent leur chemin comme un dromadaire rapide, le jour viendra où ils seront rattrapés au milieu de leur sécurité, et ils n'échapperont pas. Et bien que les enfants, les enseignants et les croyants de ce monde qui professent les Écritures aient prié pour le jour du Seigneur, pourtant quand il viendra, il sera comme un feu brûlant et dévorant, et ils tomberont devant lui comme du chaume, car tout ce qui est répréhensible est manifesté par le jour dans lequel Dieu apparaît, et il apparaîtra même aux méchants et aux impies. Ainsi vous tous mercenaires qui prêchez pour un salaire, et vous gens qui aimez qu'il en soit ainsi, vous ne serez pas cachés, et tous les opposants à la vérité seront découverts et convaincus par leurs paroles dures et leurs actes impies. Ce qui rend vos œuvres manifestes, c'est le jour, et il vous convaincra, car même les méchants verront son apparition, quoique pour leur condamnation, leur honte et leur mépris. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Apoc 1:7. Il y a 2000 ans, devant le grand prêtre juif et les pharisiens lors de son procès, Jésus a dit « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Marc 14:62. Ce n'est pas une génération particulière des milliers d'années plus tard. Ceux qui meurent sans avoir été purifiés pendant qu'ils vivaient sur la terre font l'expérience du jour du Seigneur après leur mort. Et ils regarderont vers celui qui l'ont percé. Car même chez les méchants, Dieu a un témoin qui est pur, qui souvent les retient et les reprend bien qu'ils n'y prennent pas garde parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux, mais lorsque Christ, la lumière, apparaîtra, il fera voir chez les méchants ce que le Dieu de ce monde a aveuglé, et ils le contempleront avec effroi, et sa pure apparition les rendra terriblement effrayés. Bien qu'ils n'aient pas voulu voir, ils seront amenés à voir, et ils seront amenés à entendre ce qu'ils n'auraient pas voulu entendre, lorsque Dieu sonnera de sa trompette pour avertir tous, afin que les morts, petits et grands, se lèvent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. *, les uns pour la honte et le mépris éternel, ne désigne pas tous les autres qui ne se sont pas éveillés à la vie éternelle. Le Seigneur dit qu'une honte perpétuelle et un opprobre éternel s'appliquent aux faux prophètes, Jère 23:30-40, ce qui inclurait les prédicateurs du christianisme non appelés par le Seigneur, non instruits par le Seigneur, non perfectionnés par le Seigneur, non autorisés par le Seigneur, non envoyés par le Seigneur, ne parlant pas avec des paroles entendues du Seigneur immédiatement avant de parler, et ne faisant que ce que le Seigneur leur montre à faire. Quiconque ne parvient pas à apprendre à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle rencontrera sa fureur, mais non pour toujours, et accompagné de sa compassion. Section Yves, ce qu'est le jour du Seigneur pour les justes, comment il leur apparaîtra, et si certains doivent l'attendre tant qu'ils sont dans le corps. L'apparition de Dieu, qui est la vie éternelle, en son jour, dans sa lumière sans mesure, est une grande joie et une source d'allégresse pour les justes, car il est pour son peuple une lumière éternelle, et dans sa lumière ils viennent à voir la lumière. Il révèle les secrets mystères de son royaume astérisque à ceux qui voient son jour apparaître dans leur cœur, ce qui rend toutes choses manifestes, même les secrets du Seigneur, et son trésor caché, et ses richesses durables, qui ne peuvent jamais se gâter ni rouiller, mais qui sont fraîches et conservent leur image et leur empreinte pure. Par cette lumière, tous les justes qui ont attendu l'apparition de Dieu viennent à le voir. Comme il est écrit, « Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est le Seigneur, nous l'avons attendu, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons dans son salut. Vient-il vraiment, celui que vous avez attendu ?» Oui, il vient, et sa récompense est avec lui, et ceux qui le voient trouvent en lui le contentement, et dans sa récompense. Et quelle est sa récompense? La joie, l'allégresse, la paix de conscience, l'assurance de l'amour de Dieu scellé dans le cœur par le pur esprit du Seigneur, les courants de la vie jaillissant continuellement du grand abîme, qui rafraîchissent et gardent au frais dans la plus grande extrémité et la plus grande chaleur de la tentation, et cela est goûté par ceux qui l'ont attendu et qui l'attendent, même dans le corps ils rendent témoignage de lui et de sa venue. Quel fut le témoignage de ses disciples? Le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence. De quoi? De Dieu, de son jour, de son apparition, de sa puissance, de sa sagesse, de son royaume, de l'espérance, de la foi, de l'assurance, de la paix, de la joie, du réconfort et de la consolation. Quoi dans cette vie? Oui, je pourrais amener une nuée de témoins des âges passés, et aussi de cet âge, béni soit le Seigneur, mais le témoignage qui me donne l'assurance est plus près de moi que tous leurs témoignages, bien qu'ils soient tous vrais. Abraham, le père des fidèles et des justes, qui crut en Dieu et fut agréé, vit le jour du Christ et s'en réjouit, c'est-à-dire par la foi, oui, lui et tous ceux qui ont jamais vu le jour du Christ ou le Père, l'ont vu par la foi ils ont vu celui qui est invisible, voici Dieu est mon salut. Ésaïe 12:2. Quoi en jouissez-vous déjà? Oui, il est devenu mon salut, et Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, dit, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Luc 2:30. Et celui qui disait cela connaissait le réconfort et la consolation, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Ils furent rendus participants de sa nature divine et s'assirent ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ceux qui sont en lui et jouissent de lui, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, connaissent le repos, la paix et le salut, tant de la culpabilité que des actes de péché. L'apôtre, écrivant aux Hébreux, dit que lorsque le Fils de Dieu eut purifié nos péchés, parlant de l'expiation, il s'assit à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Paul regardait au-delà du péché, vers celui qui avait purifié le péché, et cette purification du péché vient à être rendue manifeste à et en ceux qui croient, par l'Esprit de Jésus, qui est Christ l'agneau, le bras qui apporte le salut, l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui croient. Il le commence et le perfectionne en son jour, car il œuvre dans le jour, comme il l'a dit lui-même, « Mon Père œuvre ici en cela, et moi aussi j'œuvre. » Il détruit l'œuvre du diable, telle est son œuvre dans l'homme, que ceux qui sont venus à son jour sentent et voient, l'ouvrage même de Dieu en eux, et ses propres œuvres le louent, car elles seules le peuvent. Ceux qui ne sont pas venus au jour ne connaissent pas l'œuvre de Dieu en eux-mêmes, et ceux qui n'ont pas encore pris garde, en eux, à ce qui rend manifeste toutes les choses répréhensibles et qui reprend, ne sont pas encore venus à connaître l'apparition du scintillement de la lumière ou du jour en eux-mêmes, dont les saints rendent témoignage en eux-mêmes, tous ceux-là même qui sont sanctifiés. Astérisque remarqué, bien que Raugil affirme que la nouvelle naissance et l'entrée dans le royaume coïncident dans le temps avec le jour du Seigneur, le jour du Seigneur ou la seconde venue du Seigneur n'est pas nécessairement au même moment que l'entrée dans le royaume. George Fox a fait l'expérience du lever de la lumière, le jour, et du feu brûlant trois ans avant d'entrer dans le royaume. Le sermon « Born Again » de William Dewsbury montre qu'il a enduré le baptême de feu et de mort pour naître de nouveau dans un monde nouveau au jour du Seigneur. Le journal de John Bunyan montre que la lumière et de grands jugements apparaissaient presque immédiatement après qu'il eût été convaincu. Son baptême de feu s'est apparemment produit à peu près au même moment que son entrée dans le royaume, tout cela se produisant dans un groupe de croyants ensemble. Pierre lit fortement la fin du monde au jour du Seigneur, et Paul, de façon similaire, lit le fait d'être relevé du baptême de mort à l'union, et au fait de siéger dans les cieux avec Christ. Ainsi, apparemment, ce moment peut varier selon les circonstances du croyant. Selon la parole du Seigneur au-dedans, d'abord la lumière se lève, puis le royaume. Le lever de la lumière sera indubitable, c'est une expérience qui brise l'ego. Quelle que soit la durée entre les événements, nous savons que l'amour parfait du Seigneur œuvre pour notre bénéfice ultime. Section V où le jour du Seigneur apparaît, comment il vient et comment on l'attend. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes à observer ni avec un déploiement visible, on ne dira pas « regarde ici » ou « vois là » car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous et au milieu de vous. Luc 17, 20-21 Ceux qui regardent au dehors cherchant une apparition visible et extérieure ne peuvent voir l'apparition du Seigneur ni son jour. Celui qui ne sait pas où cela consiste ne sait pas comment l'attendre, pas plus que les Juifs, experts des Écritures et hommes instruits, ne savaient où consistait le royaume de Dieu. Et les croyants littéralistes, dont la foi est fondée sur la lettre Bible Écriture et sur ce qui est visible, ne savent pas davantage où le royaume de Dieu doit être trouvé. Ce jour du Seigneur, qui est une clarté éternelle, apparaît dans le cœur, et c'est là qu'il faut attendre son aurore et son jaillissement, et à mesure qu'on en rend témoignage, il manifeste le mal, l'amène à la lumière, et s'élève contre ce qui est contraire à sa propre nature. Christ, l'alliance de lumière, le don de Dieu, envoyé et oint de Dieu pour prêcher et proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de vengeance de notre Dieu, le proclame dans le cœur, car il ne vient pas apporter la paix, mais une épée, et son épée est l'épée de l'esprit. C'est elle qui sépare et discerne les pensées et les intentions du cœur et en découvre la méchanceté désespérée. Dans les cœurs terrestres, où il ne trouve pas la foi astérisque, il allume un feu et exécute sa vengeance, et son jour est pour ceux qui sont sans foi, un jour de grande perplexité. Leur esprit vient à être blessé, leur cœur devient défaillant, la tristesse les remplit, et la détresse se fait connaître, et dans cet état, ils trouvent tous ceux qui ne sont pas convertis, sans foi, sans espérance, et c'est pourquoi ils ôtent la paix. Beaucoup ont parlé du jour du Seigneur, mais quand il apparaîtra, ils ne pourront pas le supporter. Ils courront plutôt vers n'importe quoi le refuge d'une obscurité continuée que de voir apparaître le Seigneur de vie pour exercer vengeance sur ses ennemis. La foi que le Seigneur cherche dans le cœur des hommes à sa venue est une foi qui ne vient que de nombreuses révélations de la lumière et de la parole du Seigneur dans votre cœur, reçue en l'attendant et en obéissant à tout ce qu'il vous dit de faire. C'est une foi reçue directement de Christ lui-même, qui donne une grande assurance du salut à venir. Une telle foi ne vient pas de croire la Bible, une expérience religieuse unique, être baptisé dans l'eau, répondre à un appel à l'autel, dire que Jésus est Seigneur, inviter Jésus. Ceux qui n'ont pas encore vu en eux-mêmes ce jour de vengeance du Seigneur n'ont jamais vu le jour du salut. Le prophète s'écria, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui subsistera lorsqu'il apparaîtra ?» Et beaucoup ont été témoins oculaires du redoutable jour du Seigneur, qui est apparu en eux, où toute paix a été cachée à leurs yeux. Et tous ceux qui sont venus à voir ce jour de joie et d'allégresse ont d'abord connu en eux-mêmes la terreur et le terrible jour du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre a dit, « Nous, connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Or ce jour du Seigneur ne vient pas avec des observations. Voici ici, ou là, ainsi les pharisiens s'attendaient à ce que le royaume des cieux vienne, alors que Christ leur disait qu'il était au-dedans d'eux. Je dis si quelqu'un doit jamais contempler le brillant rayonnement de la vie éternelle, il doit attendre en ce qui est de Dieu, par quoi il manifestera en eux son jour et sa puissance. Et à mesure qu'ils tiennent leur attention sur ce qui leur manifeste le mal et leur montre le bien, ils verront comment cela apparaît. Comme l'éclair brille de l'Orient à l'Occident, telle est la venue du jour du Seigneur, et l'œil spirituel le voit. La puissance et la gloire du Seigneur sont vues dans le jour, pur et spirituel, dans le cœur, et l'œil pur découvre quand il vient, où il vient et comment il vient, tandis qu'il est caché à l'œil du vautour, et caché aux yeux qui ne peuvent cesser de pécher. Or le jour du Seigneur ne vient pas là où l'esprit charnel pourrait l'imaginer, ni quand l'homme le veut, ni selon le désir charnel du cœur charnel, ni selon l'œil mauvais qui regarde au dehors, il ne peut ainsi être vu. Et comme le jour du Seigneur est un mystère, l'Esprit du Seigneur en est le seul révélateur, car nul ne peut connaître les choses de Dieu, sinon par l'Esprit de Dieu. Le jour du Seigneur, son brillant rayonnement dans le cœur de l'homme, est l'une des choses glorieuses de Dieu, dont seul l'Esprit de Dieu donne la connaissance à l'homme et en l'homme. Plus les hommes s'éloignent de la lumière, plus leur cœur devient sombre, et leur entendement est enfermé, ils ne peuvent contempler le Seigneur ni sa gloire, laquelle n'est révélée que par le Saint-Esprit de Dieu, cet esprit est proche de l'homme, bien qu'il ne le voie pas. Section vie car la parole que Dieu prononce est vivante et pleine de puissance, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la ligne de séparation du souffle de vie, âme, et de l'esprit, des jointures et de la moelle, exposant, tamisant, analysant et jugeant les pensées mêmes et les desseins du cœur. Hébreux 4:12 Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, qui révèle les choses de Dieu, et comment vient-on à le recevoir? L'Esprit du Seigneur est un avec le Père et le Fils, le Père, la parole et l'Esprit sont un, il est vie, pureté, sainteté, puissance et force, et il ne se mêle ni ne s'unit à rien qui ne soit de sa propre nature. C'est une puissance éternelle, vivante et agissante, qui ne change pas, mais garde sa sainteté à jamais, et qui est insondable, impénétrable et inexprimable, sauf en tant qu'elle se manifeste à ceux qui croient, s'ouvre et se répand au loin en ceux qui l'attendent. Elle est révélée dans sa propre pureté, manifeste dans sa propre puissance, reçue dans sa propre lumière et ressentie dans sa propre vertu. Le Père vivant lui-même se manifeste par elle et apparaît dans sa puissance, sa majesté et son excellence par elle à l'homme, au juste comme à l'injuste. C'est elle qui sonde le cœur de l'homme, voit au travers de toutes choses et rend toutes choses manifestes, même les choses cachées de Dieu, et aussi les œuvres secrètes des ténèbres. Elle reprend toute iniquité et convainc tout homme, et à mesure que la créature s'unit à elle, elle se lève et resplendit plus clairement, se faisant connaître par sa puissance et son opération, retenant, reprenant, jugeant et condamnant des actions passées, et les rappelant à la mémoire. Or, lorsqu'on attend sa pure apparition, l'esprit devenant immobile et tranquille, la créature vient à sentir et à connaître sensiblement sa propre condition, qu'elle est vivante à d'autres choses et non à Dieu ni aux choses de son royaume, qu'elle est dans la chute et la transgression. Et à mesure que cette opération de l'Esprit est aimée et obéie, elle attire à elle, convertit le cœur au Seigneur hors de l'impiété, hors de la puissance des ténèbres, elle soumet cela, et ainsi se lève dans sa propre force. Elle est celle qui fait connaître la pensée du Seigneur au fil des hommes, car le Père, par elle, fait connaître sa pensée à et dans la créature, et leur révèle les choses éternelles dans leur vraie nature et propriété, choses qui ne sont pas vues par l'œil naturel, ni reçues par l'Esprit du monde, qui ne reçoit jamais les choses de Dieu ni le témoignage de ceux qui sont dans la vie. Or tous ceux qui reçoivent cet esprit de vérité doivent attendre en ce qui est pur, à quoi il s'unit, car il ne s'unit pas à l'homme corrompu ni à la volonté de la créature, mais bien qu'il ne s'unisse pas à ceci, il est pourtant proche, même de l'homme naturel, dans le rayonnement de sa clarté, rendant le mal manifeste comme mal. Jusqu'ici, il est apparu à tous les hommes, mais tant que le cœur de l'homme est occupé par le péché et uni à ce que la lumière reprend, il n'a pas reçu l'Esprit ni n'en est devenu possesseur, il se tient comme à distance de lui, lui montrant ses œuvres de ténèbres et lui laissant voir à qui il est uni. Toutefois, dans la mesure où un homme se renonce lui-même, en agissant ou en s'unissant à ce que la manifestation de l'Esprit de Dieu en lui reprend, il en vient, en quelque mesure, à s'unir au Saint-Esprit et à le recevoir, et bien qu'il n'agisse que faiblement en lui, il purge pourtant ces choses qu'il lui fait voir comme mauvaises. Ainsi, en quelque mesure, il sent en lui-même ce qu'il faut attendre, ou attendre, et en quoi attendre, c'est-à-dire dans ce qui donne à chacun le sentiment de sa propre condition au-dedans et ouvre son entendement. Section vie comment l'Esprit de vérité opère en ceux qui sont convaincus et pourtant n'ont pas obéi. Bien que Dieu soit apparu à tous par la manifestation de son Esprit, tous n'ont pourtant pas reçu son Esprit. Le faiseur de mal ne l'a pas reçu. Le matin est pour lui comme l'ombre de la mort, il est encore mort dans ses offenses et ses péchés, et il est cette ténèbre dans laquelle la lumière lui, et le convainc, car la lumière lui dans les ténèbres. Cela peut convaincre tous ceux qui disent que chacun n'est pas éclairé et que l'Esprit de Dieu n'est pas apparu à tous. Les hommes bons l'ont, il est proche des hommes mauvais, qui sont dans les ténèbres et sont ténèbres, comme les Éphésiens l'étaient dans leur état non converti, F5-8, lesquels, en se tournant vers la manifestation de l'Esprit, vinrent à être fait lumière dans le Seigneur, qui ne s'est pas laissé sans témoin. Mais ceux qui n'ont pas pour eux le témoignage de Dieu n'ont ni foi en Dieu ni assurance du salut, car ceux qui devraient apporter l'assurance du salut assurent leur condamnation et leur révèlent la tristesse. Et bien que, pour un moment, ils ne soient pas entendus, ou que, par désobéissance, ils paraissent comme morts, pourtant si l'Esprit demeure immobile, et qu'un homme soit sobre et calme, et fasse attention à ce qu'il fait, cela lui apparaît de nouveau, attisant son tourment. Bien qu'un homme puisse entreprendre et accomplir quelque chose qu'on appelle religieux, et certaines ordonnances charnelles et extérieures, prier avec des mots, lire et parler des Écritures, et y trouver un contentement pour un temps, le témoin du Saint-Esprit de Dieu lui montre son hypocrisie et qu'il cherche une couverture sous laquelle s'abriter dans sa désobéissance, afin d'être à l'aise selon la chair. Tout cela est vain car il n'y a pas de paix au-dedans, mais la mesure de l'Esprit de Dieu lui montre encore qu'il sert le péché et suit sa propre voie. Non, même si un tel homme pratiquait toutes ces choses que d'autres, qui étaient dans la vie, ont accomplies et qui furent agréées, cela ne satisferait pas Dieu davantage que s'il bénissait une idole ou baisait Baal. Et bien qu'un homme puisse pécher au point de s'opposer à la lumière du Christ dans sa propre conscience, et dans sa volonté rebelle, persister à suivre les imaginations de son propre cœur, jusqu'à éteindre l'esprit et ses mouvements, devenir insensible aux choses de Dieu et s'endurcir de cœur, de sorte que la lumière soit pour lui comme s'il n'y avait rien de tel, néanmoins malheur un tel homme, car bien que l'esprit lutte longtemps, pourtant étant toujours désobéi, la patience de Dieu arrive à sa fin, la colère de Dieu s'en. Section vie comment l'Esprit du Père agit en ceux qui se sont tournés vers lui, ont pris garde à ses manifestations et participent, dans une certaine mesure, à sa puissance. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, il y a différence de ministère, mais le même Seigneur, et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. L'Esprit de vérité n'opère pas seulement pour convaincre et démasquer celui qui transgresse contre son apparition, et pour manifester le mal qui a été commis. Mais aussi, lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on l'attend, il montre à l'homme quand surgissent les tentations et les impulsions au péché. Et à mesure que la créature demeure immobile et attente en ce qui manifeste, gardant son esprit fixé uniquement sur cela, il répand sa puissance, dompte les convoitises qui s'élèvent, condamne la racine d'où elle s'élève, et attire l'esprit à sa suite. Il agit secrètement et souffle sa pure vie en celui qui attend avec patience et silence, ne prêtant pas attention aux pensées vaines et aux imaginations qui s'élèvent dans son cœur, mais à la manifestation de l'esprit, qui éteint les désirs vains et crée au-dedans une fin d'être rendu participant de sa pureté et de sa nature, car Dieu, par l'opération de l'Esprit éternel, déploie sa puissance qui change le cœur, et établit une séparation entre un homme et ses amours auxquels il s'est uni, il opère une séparation au-dedans, l'éloigne d'un. Ainsi, ceux qui croient à la mesure de l'Esprit de Dieu viennent à sentir ce qu'est la repentance des œuvres mortes. Il ne passe rien dans l'esprit de celui qui attend paisiblement l'Esprit dans la simplicité du cœur, qu'il ne discerne, et pourtant, après que l'Esprit de vérité et son témoignage vivant ont été, en certaines choses et dans une certaine mesure ressenties, il peut s'écouler longtemps avant qu'il y ait un discernement clair dans l'intelligence, de sorte que l'on puisse distinguer nettement ses mouvements de tous les faux mouvements et des hautes imaginations. Et ainsi les esprits hâtifs et empressés suivent des mouvements vains qui les trompent. Puis ils mettent. Dès que quelqu'un écoute sa voix, il lui présente des mouvements auxquels obéir, et ils sont trompés par lui. C'est pourquoi tous doivent être vigilants, afin de sentir distinctement la différence entre les mouvements et attirances purs de l'esprit, et les pensées vaines qui s'élèvent du cœur terrestre, et lorsque quelque chose surgit à quoi la lumière ne rend pas témoignage, cela ne doit ni être suivi ni pris en compte, mais il faut observer une attente paisible et silencieuse, afin que les choses deviennent claires pour l'intelligence. Faute de cela, beaucoup se sont précipités dehors, ont agi avec empressement selon leur propre volonté, et ont produit l'œuvre de Satan, et ainsi ils ont perdu le vrai sens de ce qui aurait dû guider leur esprit. Ceux-là ont suivi l'esprit d'erreur et ont fait que l'on a parlé mal du pur esprit du Seigneur. Mais lorsqu'il y a retenu, attente paisible, et que l'on s'abstient de vouloir ou de courir de se hâter, l'esprit s'élève purement et tranquillement dans le cœur, et donne une preuve parfaite et un témoignage complet de lui-même, de sorte qu'il n'y a besoin ni de douter ni de questionner son mouvement, car il se manifeste avec une pleine assurance de sa propre volonté. Et lorsque cela est clairement vu et ressenti, que tout raisonnement soit tenu en dessous, et toute question écartée, et ne cédée par à la tentation, ce qui meut de la part du Seigneur de vie mènera à terme, par sa propre opération et sa puissance, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si en étant obéissant, la paix sera reçue et la force sera renouvelée, car à mesure que certains sont amenés à se soumettre à la volonté de Dieu et à obéir par la vertu de sa propre puissance, tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu en ne perd sa force, mais par la désobéissance au mouvement pur du Saint-Esprit de Dieu, après qu'il ait connu l'ennemi est fortifié, et ce qui est de la chair est nourri, et l'Esprit qui donnerait de la force s'il était acquis est étouffé, pourtant l'Esprit en lui-même ne perd jamais sa pureté. Ainsi est connue la diversité de l'opération de l'Esprit, et à mesure qu'on l'écoute, qu'on lui obéit, qu'on l'aime et qu'on croit en lui, il déploie sa puissance pure, donne de la force et scelle la paix à l'obéissant, mais désobéi et résisté, il juge, reprend et scelle la condamnation au désobéissant. Il fait que la bonne terre porte du fruit pour Dieu, et dans la terre maudite il allume un feu qui ne s'éteindra pas, mais lorsqu'il y a soumission à son opération pure, il brûle et détruit ce qui empêche la croissance de la semence, et il purge les cœurs de ceux qui ont confiance en lui de toute souillure, tant de la chair que de l'esprit, et il façonne la créature selon son propre cadre et sa nature, et il forme et modèle tous ceux qui sont dans la foi à l'image du Père, et ainsi l'amour du Père vient à être répandu dans leur cœur. Comme la colère et la condamnation ont été révélées par l'Esprit, ainsi maintenant la paix de Dieu est goûtée, et sa consolation est largement répandue par lui, dans laquelle il y a une joie pure pour toujours. Section X à qui l'Esprit rend témoignage et scelle l'assurance de l'amour du Père, et la justification devant Dieu. Nul n'a le témoignage de l'Esprit de Dieu, lui rendant témoignage à eux et en eux, s'il n'a pas cru en Christ, la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant au monde, dont les paroles sont esprit et vie, et par qui la nouvelle créature est formée en ceux qui croient, et qui manifeste sa puissance à de tels. Car toute puissance dans le ciel et sur la terre lui est remise, à lui qui est la lumière des hommes, et rien n'a été créé sans lui, et nul n'est détourné du péché sinon par lui, sans lui est la mort, en lui est la vie. Nul, sinon ceux qui sont nés de la lumière, ne peut avoir l'Esprit de Christ lui rendre témoignage. Seuls ceux qui sont nés de l'Esprit et marchent selon l'Esprit sont justifiés par l'Esprit du Seigneur. Car l'assurance de son amour n'est pas accordée à ses ennemis, mais seulement à ceux qui sont nés à son image, avec sa propre ressemblance et nature. Ceux-ci sont la sainte semence, héritière de la promesse. Cette sainte semence connaît l'espérance vivante qui purifie le cœur et apporte la réponse d'une bonne conscience à ceux qui ont été témoins du lavage de la régénération, connaissant en eux-mêmes l'eau pure répandue sur eux, qui a ôté les taches et les souillures. Là où les taches et souillures n'ont pas été lavées, là où le cœur n'a pas été purifié, et là où ce lavage n'est pas cru, dans lequel la toute-suffisance de Dieu est ressentie et dans lequel sa puissance est manifestée, l'assurance de l'amour du Père dans le cœur ne peut exister, et son esprit non plus n'assure, ne témoigne, la justification d'une telle personne. Au contraire, là où le péché demeure non dompté existe encore, l'esprit du Père condamne le péché et la personne en qui le péché existe encore, qui est dès lors jointe au péché et ne fait qu'un avec lui. Car aucun péché n'est produit sans qu'il y ait assentiment à l'instigation du diable. Car lorsqu'une tentation survient, soit au-dedans soit au-dehors, et qu'il y a résistance et lutte contre elle pendant un temps, toutefois si le cœur n'est pas tenu près de l'esprit, l'ennemi entrera et captivera l'intelligence, alors il y aura accord avec l'adversaire et union avec lui, et l'esprit prononcera une sentence de condamnation sur celui qui s'unit au méchant. Et celui qui a consenti à boire sa coupe doit boire la coupe de l'indignation du Seigneur, subir le coup de la justice divine et demeurer patiemment sous elle, jusqu'à ce que soit abattu ce qui s'est joint à la tromperie, avant qu'il puisse y avoir rémission de la transgression ou que la créature soit justifiée aux yeux de Dieu. Car le péché n'est pas effacé du livre du souvenir de Dieu tant qu'il n'en est pas repenti et qu'on ne s'en est pas détourné, et la créature ne se tient pas nette aux yeux de Dieu quand Dieu condamne par un jugement juste, auquel la lumière dans la conscience de chacun répondra. Or, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, laquelle est la vie. Et à mesure que la créature s'unit à cette semence, héritière du royaume et de la couronne immortelle, elle devient participante de sa vertu et de son opération. Cette semence est Christ à qui toute puissance est remise, et qui par sa puissance, à mesure qu'on croit en lui, limite la semence du serpent, affaiblit sa force dans la créature et annule l'alliance qu'il a faite avec la mort. À mesure que la créature est délivrée de la corruption et que l'homme nouveau en vient à vivre, la nouvelle créature, qui est née de Dieu, est formée et façonnée à l'image du Père, et l'amour du Père lui est manifesté et en lui, et il en a l'assurance en lui-même. Celui qui est engendré du Père en Christ la semence par l'Esprit, celui-là, et lui seul, en vient à sentir l'amour du Père manifesté en lui, et est justifié aux yeux du Père, et a son assurance et sa preuve près de lui et en lui. Et lorsque l'adversaire vient tenter et assaillir, et voudrait faire naître des doutes dans l'esprit de celui qui a cette preuve, elle est proche pour l'assurer qu'il est dans l'amour de Dieu. Bénis et heureux sont tous ceux qui ont attendu et ont ressenti ces choses, et qui en sont témoins, car ce n'est pas la chair et le sang qui les ont révélées. Que tout homme qui lit ceci s'éprouve et se met à l'épreuve, pour savoir s'il est dans la foi ou non, et s'il a la preuve qu'il est né de l'esprit ou non, et s'il connaît une naissance qui ne pèche pas, parce que la semence demeure en celui qui est gardé par la puissance, afin que le mauvais ne le touche pas. Et ainsi il est gardé vivant pour celui qui l'a amené à la vie et lui a donné à boire la coupe du salut, qui nourrit jusqu'à la vie éternelle tous ceux qui demeurent dans la foi. Section X. Ce qu'est la libre grâce de Dieu, jusqu'où elle est un maître suffisant, à qui elle est apparue, et comment tous doivent attendre pour la recevoir. Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant que renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, en attendant le bienheureux accomplissement de notre espérance, c'est-à-dire l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se purifier un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 11-14 La grâce de Dieu est son don gratuit, c'est l'apparition de Christ, c'est par elle que Dieu fait connaître sa volonté et par laquelle il nous enseigne. Il révèle par elle sa santé salvatrice à ceux qui sont instruits par elle, et ceux qui sont instruits par elle sont édifiés dans la vérité par elle, et deviennent une demeure pour Dieu. Nul ne peut rien faire pour l'acheter, nul n'a besoin de dire « Où puis-je l'obtenir ?» ou « Comment puis-je connaître ses enseignements ?» Elle est proche de tous, elle est en tout, elle est apparue à tous par son éclat, elle montre l'impiété dans le cœur de l'homme, oui, elle montre à tous les hommes les mouvements vers le péché, elle en détourne les cœurs, elle montre les convoitises du cœur et de l'esprit, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Elle ne s'unit jamais au péché, rien ne peut altérer sa pureté ou sa propriété. Et bien que certains qui se sont tournés vers elle s'en soient ensuite détournés et puissent en eux-mêmes se tourner vers la licence, pourtant elle conserve sa pureté. Beaucoup ont été des discoureurs sur la grâce en ce siècle de profession, qui n'ont ni su de quoi ils parlaient, ni informé les esprits des hommes où il fallait attendre la grâce, ni comment la grâce pouvait être connue, ni comment, ni quelle était l'opération de la grâce. Mais ils l'ont exalté dans leur propre imagination. Nous sommes justifiés par sa libre grâce de tout péché passé, présent et à venir, et dans cette présomption des milliers ont été conduits dans le gouffre des ténèbres, s'imaginant qu'il était justifié. Maintenant que Dieu a donné à ceux qui l'ont attendu l'intelligence pour déclarer la chose même dont vous parliez, laquelle vous clamez maintenant n'être pas un maître suffisant, laissez-moi vous poser une question. Ce qui enseigne à renoncer à l'impiété n'est-il pas un maître suffisant? Si ce ne l'est pas, pourquoi les apôtres ont-ils recommandé les croyants à la parole de sa grâce, qui était capable de sauver leurs âmes? Acte 20-32, Jacques 1-21. Ce qui est capable de sauver l'âme n'est-il pas un maître suffisant? Puisque donc la libre grâce de Dieu, qui est sa pure apparition, s'est ainsi manifestée, ou que Dieu par elle montre le péché et en délivre, et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, lequel était et la lumière du monde, et a répandu sa grâce et l'a fait apparaître à tous, et que tous ceux qui l'attendent en viennent à être instruits par elle et à sentir son assurance, ainsi tous sont sans excuse. Attendez donc, dans ce qui est apparu en vous, car ce qui montre la convoitise, les pensées et les mouvements vers le péché est le don de Dieu, la grâce de Dieu, et cela suffit, et quand bien même tous les hommes du monde diraient que cela ne suffit pas, cela ne rendrait pas votre foi vaine. Ne tenez pas compte de telles déclarations, vous qui l'avez reçue, car nous avons en nous-mêmes le témoignage de notre foi, qui donne un sentiment pur et parfait de l'opération de l'Esprit du Seigneur, lequel sauve du péché tous ceux qui croient en lui et leur donne domination sur lui. Section XI. S'il y a une distinction dans la grâce ou non, elle n'est pas séparée de Christ. Une exhortation à ceux qui aspirent à son apparition. L'esprit des peuples a été embrouillé par des distinctions faites par ceux dont la sagesse est au-dessous de la sagesse de Dieu, et qui disent qu'il y a une grâce double. Premièrement, ce qu'ils appellent commune, qu'ils disent être apparu à tous, et deuxièmement, ce qu'ils appellent spéciale et salvatrice, qu'ils disent être apparu aux saints. En prêtant attention à ces distinctions, il y a bien des années, je suis allé de l'apparition de la lumière en moi-même à l'écoute de quelque chose à distance de moi, et ne prenant pas garde à ce qui était chez moi et proche, parce que cela était appelé commun et insuffisant, je me suis perdu, ainsi que mon guide. Pourtant, après de nombreuses années de profession, j'ai été amené à revenir à ce qui était appelé commun et insuffisant, avant de trouver faveur auprès du Seigneur ou de sentir de nouveau sa puissance vivante. Le premier, appelé commun, il le fonde sur l'Écriture où il est dit, Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et ils disent que par cela nous découvrons les péchés grossiers. Le second, qu'ils appellent spécial, ils disent que c'est par lui que les saints sont sauvés et affermis dans la justice, et reçoivent la rémission des péchés. Or celui qui fait lever le soleil et tomber la pluie, et qui donne santé et force à toute chose dans la création extérieure et visible, qui révèle à l'homme ses péchés grossiers, est le même qui est la vie de l'âme, qui sanctifie, purifie et sauve ceux qui croient. La même puissance qui soutient l'homme naturel soutient l'homme spirituel. La même puissance, je ne dis pas la même mesure, par laquelle toutes les choses visibles subsistent en leur place, conserve tous ceux qui croient et sont vivifiés par lui, qui est la puissance de Dieu. La même puissance, qui découvre les lieux obscurs de l'horrible fosse conduit tous ceux qui croient en elle vers le pays des vivants. La même grâce qui découvre les péchés manifestes découvre aussi les péchés secrets et cachés. Toutefois elle brille moins en ceux qui sont dans l'incrédulité, parce que le voile est épais et les nuages nombreux sur eux, mais en ceux qui croient en cette grâce, elle déchire le voile, dissipe les nuages et jaillit dans son éclat. Que cette grâce soit, dans une certaine mesure, apparue à tous les hommes, est une vérité dont toute la terre témoignera au jour de l'apparition du Seigneur, et dont témoignent maintenant tous les enfants de la lumière, qui croient, ainsi tous sont laissés sans excuse. En cela se manifeste l'amour merveilleux de Dieu envers toute l'humanité, et tous ceux qui se tournent vers sa grâce verront qu'il a longtemps attendu pour faire grâce, afin que tout le genre humain puisse devenir participant de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde, de sa faveur et de sa libre grâce. C'est pourquoi, dans un cher amour envers tous ceux sur la face de la terre à qui ceci pourra parvenir, j'écris cela, afin qu'eux aussi deviennent participants avec moi de l'amour gratuit et de la grâce de Dieu, par lesquels je suis sauvé, et que je connaisse les murailles qui sont salut et les portes qui sont louanges, par lesquelles les saints sont entrés, et dont ils sont entourés. Quand je parle de la suffisance de la grâce, et que je dis qu'elle est un maître suffisant, je n'en parle pas comme d'une chose distincte de Christ, ni comme d'une chose séparée de la puissance de Dieu, mais comme unie à elle et à lui d'où elle vient. Car il est le salut même, dans la grâce de Dieu, par laquelle il se manifeste, et son salut à ceux qui croient, est de même nature. Car là où l'apparition et la présence de Christ se manifestent, sa puissance se manifeste, soit pour la condamnation soit pour le salut. Et bien que son apparition soit une en elle-même, pourtant, pour ceux qui ont défiguré son visage et l'ont percé, sa présence a toujours été, et sera très redoutable et terrible, mais pour ceux qui l'ont désiré, qui croient en lui, qui sont demeurés avec lui et ont souffert avec lui, son apparition sera douce et glorieuse. Oh, que tous ceux qui le désirent puissent l'attendre avec patience dans son quoi il apparaîtra, et ils le verront, et cette vue sera une récompense pour toute leur attente, leur soif, leur désir et leur patience. Tout cela sera ôté quand il apparaîtra, lui qui réjouit le cœur, qui fait lever la lumière de sa face et rétablit ce dont le cœur a été brisé pour lui. Attendez donc tous, et ne trouvez pas le temps long, attachez votre esprit à sa grâce qui est son apparition, et vous le sentirez et le verrez, et vous serez rassasiés et rendus capables de dire « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Voici le Seigneur, nous l'avons attendu, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons de son salut. » Bien que Dieu dans son amour éternel pour les fils des hommes, les ait suivis et les ait appelés à revenir, pourtant la nature qui est en l'homme, qui a transgressé contre la vie, résiste toujours à l'attirance du Seigneur. Elle n'est soumise ni à la loi de Dieu ni à la grâce de Dieu qui enseigne à renoncer à toute impiété aux convoitises mondaines, qui ont entouré la créature comme un épais nuage, jusqu'à ce qu'il y ait une écoute de ce qui montre l'impiété, et qui a la puissance en soi, car nul n'a de lui-même pouvoir ni domine. C'est pourquoi, bien que Dieu soit apparu en sa grâce pure et parfaite à tous les hommes, pourtant tous les hommes n'ont pas reçu la grâce. Car bien que le Seigneur offre son don afin que la créature le reçoive et participe de sa vertu et de son opération, toutefois, tant que ce qui est contraire à la grâce a la prééminence en l'homme, cela ne la recevra jamais, parce que la grâce est contraire à ce qui s'oppose, qu'elle mortifie, dont elle ôte la vie et tue l'inimitié. C'est pourquoi tous doivent demeurer immobiles et tranquilles, afin de sentir ce qui reçoit la grâce, élevé au-dessus des pensées et des désirs corruptibles de l'esprit charnel. Beaucoup qui parlent de libre grâce ne font aucune différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, mais ils poussent les gens à faire et à travailler, eux qui sont dans l'inimitié, la malédiction et la mort, et ainsi ils ont produit des œuvres mortes, nonobstant toute leur performance. Puisqu'ils sont morts à la vie de Dieu, un autre agit en eux, à savoir celui qui a le pouvoir de la mort, qui est le diable. Et ne connaissant pas ce qui est précieux en eux-mêmes, ils ne peuvent servir ce qui est précieux en d'autres, mais ils sont des ministres de mort. Or, bien que tous n'aient pas reçu la grâce au point d'être sauvés de commettre le péché, La faute n'est pas en Dieu, elle n'est pas non plus dans la grâce, qui est apparue à tous les hommes, ni parce qu'elle serait débile et faible, mais parce qu'elle n'est pas écoutée, ni attendue, ni crue, ni reçue, ni obéie. Car voici une vérité éternelle, qui subsistera à jamais, la moindre mesure de la grâce de Dieu a en elle-même la puissance de sauver l'homme de commettre ce mal ou ce péché qu'elle lui montre, et à mesure qu'elle est reçue, la puissance se manifeste de plus en plus, et tous ceux qui croient en viennent à être préservés du mal. Il n'y a ni variation, ni changement dans le don de Dieu, sinon selon qu'il agit sur des objets différents. La foi et l'incrédulité sont deux choses différentes, comme la lumière et les ténèbres sont différentes. Ainsi, la parole de la grâce de Dieu est une odeur de vie pour la vie à ceux qui croient, et une odeur de mort pour la mort à ceux qui sont dans l'incrédulité, qui en effet sont morts tout en vivant. Voici la même grâce, mais une différence d'opération. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, pourtant c'est le même Seigneur. L'Esprit convainc de péché et reprend pour le péché, et il console et réconforte aussi, voici diversité d'opérations, pourtant le même Esprit. Et bien que les négligent, et ceux qui ne croient pas disent, « Nous ne sentons ni puissance ni suffisance en la grâce pour nous sauver du péché », cela n'annule pas la confiance de ceux qui l'ont reçu et connaissent sa puissance, qui leur a donné la puissance d'accomplir la volonté de Dieu. Bien que les incrédules, qui sont dans l'aliénation, disent « Il n'y a ni beauté, ni forme, ni éclat en Christ », cela n'annule pas sa gloire, lui qui est l'image expresse du Père, plein de grâce et de vérité. Les disciples, qui étaient dans la foi, virent sa gloire et lui rendirent témoignage, et les pharisiens, qui étaient dans l'incrédulité, dirent « Il a un démon ». Paul, qui était ministre de la parole de réconciliation, fut assailli par le messager de Satan, et il pria Dieu trois fois à ce sujet, et cette réponse lui fut donnée « Ma grâce te suffit ». Ainsi il est évident pour tous les entendements que le Seigneur ouvre, que ce qui lui montra les coups du messager de Satan était suffisant pour le préserver. Et ainsi en est-il pour tous ceux qui s'y tiennent avec simplicité. Cela suffit pour montrer l'impiété par sa pureté, pour détourner des convoitises mondaines, pour enseigner la volonté de Dieu, et pour vivre pieusement dans ce présent monde par sa puissance. Je rends ce témoignage pour elle et d'elle, à savoir de ce que j'ai ressenti, goûté et éprouvé quant à sa suffisance et sa vertu, et quant à la puissance de son opération pour l'instruction de ceux qui ont soif du Seigneur, et pour l'opposition aux argumentateurs et aux adversaires de celle-ci. Témoignage que je recommande à ce qui est de Dieu en chaque homme, et cela me rendra témoignage au jour de Dieu, lorsque tous les cœurs seront ouverts et que tout mensonge et toute vérité seront manifestés. Section XI, une parole aux sages du monde, qui se glorifient dans le son des mots et adorent les apparences extérieures, et à tous les croyants littéraux qui cherchent à scruter les choses profondes de Dieu et à adorer Dieu correctement par leur sagesse naturelle, leur savoir, leur capacité et leur étude. Dieu répand sa puissance et sa gloire et les fait couler vers ses petits, par quoi vous êtes tous pesés, toutes vos capacités, langue, langage, interprétation, signification et sagesse qui ne sont que naturelles. Car bien qu'il y ait beaucoup de langues et que chacune ait une interprétation et une signification, elles sont toutes trop courtes pour déclarer la vie, l'être incommensurable de la vie éternelle. Vos langues, et la signification de toutes les langues, ne peuvent connaître la pensée de l'Esprit, et vous ne pouvez connaître l'origine du salut éternel par tout cela. Et ne connaissant pas en vous-même la signification de l'Esprit vivant et éternel, vous inventez, étudiez, imaginez, façonnez et arrangez des choses dans vos esprits charnels, vous avez rempli le monde de vos conceptions sombres et bourbeuses, et vous avez détourné les gens de la recherche de la sagesse du Dieu vivant, qui vient d'en haut, qui était avant vos langues et vos langages. Et vous les avez enfermés dans vos conceptions et vos distinctions, vos fables inventées et votre culte imaginé, de sorte que beaucoup ont perdu en eux-mêmes le sens. Il est lamentable de voir comment les gens sont sortis de la pure simplicité, qui est en Christ pour tomber dans la subtilité et la tromperie, et sont devenus pleins de ce qui devra être entièrement répandu comme de l'eau avant qu'ils n'en viennent à la moindre mesure de la vraie connaissance de Dieu, connaissance salvatrice. Un jour terrible est venu sur beaucoup, il ne tarde pas, mais viendra sur vous promptement comme un voleur, vous qui avez ôté la clé de la connaissance et donné aux gens ce qui n'ouvre pas, vous et ceux qui vous suivent serez ensemble exclus comme des insensés, quoique vous vous comptiez sages, votre sagesse périra, et votre honneur sera mis dans la poussière. Et vous, professeurs littéraux, qui avez mis l'Écriture dans vos têtes et dans vos esprits charnels pour en parler, vous avez adopté et vous exalté une pratique visible et ombreuse, et vous négligez la vie, et vous faites des idoles de choses qui n'étaient qu'une figure et une représentation. Dans leur temps le plus pur, vous, comme les pharisiens, limitez le Seigneur, que s'il ne veut pas vous apparaître dans ces choses que vous vous êtes prescrites d'après la lettre, vous ne pouvez le recevoir. Que le Seigneur ouvre vos entendements, afin que vous vous voyiez vous-même, et que vous voyiez combien vous êtes écumeux, vains et légers, un avec le monde dans le fond même, prétendant à la liberté en Christ, alors que vous pouvez voir que vous êtes serviteur de la corruption et de beaucoup de convoitises infectes. Encore que sont toutes les apparences extérieures, sinon comme un rideau, ou un voile, ou une ombre, en comparaison de Christ, la justice de Dieu au-dedans, mais vous êtes si rempli de vos conceptions de sa justice à distance que vous avez oublié tout ce qui est chez vous. Sa justice ne sera pas un manteau pour votre propre justice et votre injustice. Et si Christ n'est pas formé en vous, s'il ne vit pas en vous, n'agit pas en vous et n'accomplit pas son œuvre en vous, vous êtes dans la propre justice. Un discours sur l'imputation ne vous sauvera pas, tant que vous n'êtes pas dans cette capacité, cette nature et cette foi auxquelles sa justice est imputée. Ne voyez-vous pas votre terre devenue stérile, votre profession desséchée et votre culte mort? Quand chercherez-vous ce qui demeure à jamais? J'ai pitié de vous qui avez eu des soupirs vers Dieu et vous êtes assis à votre aise dans ce qui n'est pas éternel. Soyez avertis, rentrez chez vous, considérez, voyez sur quelle corruption vous avez maintenant pouvoir, qui autrefois avait pouvoir sur vous. Reposez-vous dans cette foi que vous ne serez jamais purifiés ici-bas. C'est plutôt de l'incrédulité, ce n'est pas la foi de Dieu choisie, par laquelle ils sont sanctifiés et vainquent en eux-mêmes le mauvais, par la puissance de Christ, et sont rachetés de la servitude de la corruption pour le servir dans l'Esprit de Dieu, par lequel les fils sont rendus libres du péché, de l'acte et de la culpabilité, et deviennent les temples du Saint-Esprit. Considérez combien vous êtes loin de cela, vous qui êtes encore des temples d'impureté. Repentez-vous, et prenez garde à ce qui vous vide de vos pensées et de votre suffisance, afin que vous connaissiez la pauvreté en esprit, afin que le royaume de Dieu vienne en vous et soit à vous en possession. Voilà l'état véritable de beaucoup d'entre vous, reconnaissez-le et repentez-vous, afin que, si possible, vous trouviez une porte de miséricorde ouverte pour vous, et que vous entriez par elle. Car ce n'est pas en établissant et en se conformant extérieurement à une pratique visible que l'on sera justifié, tandis que ce qui est dans la transgression et a désobéi à la lumière dans la conscience est une tête en vous, cela ne vous recommandera pas à Dieu, et vous ne pouvez avoir aucun accès à Dieu ni être agréé de lui dans cet état. Vous devez venir au rocher avant de connaître quoi que ce soit qui demeure, lequel rocher est Christ. Vous devez tous venir à ceci avant de pouvoir connaître en vous-même le salut de Dieu, ou la rédemption, ou avoir le témoignage du Saint-Esprit de Dieu, sans quoi il n'y a ni vrai zèle, ni preuve, ni assurance de l'amour de Dieu goûté. Le temps du rétablissement est venu, et beaucoup sont rétablis de nouveau dans l'alliance de Dieu, ils sont délivrés des mâchoires de la mort, et ils sentent celui qui est le guérisseur des brèches être le restaurateur des lieux désolés. Mais tous doivent venir à voir le lieu rendu désolé, où loge la nature sauvage, avant d'avoir part au rétablissement. Quittez donc ces montagnes stériles où vous vous nourrissez pour venir à Christ, la vie des hommes, qui vous a éclairé, afin que vous sentiez sa pensée en vous-même. Sinon vous vous égarez encore par manque de connaissance, vous périssez par défaut d'intelligence, et ainsi vous coucherez votre tête dans la douleur. Section XI. Le royaume de Dieu et de Christ déclaré. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Sa domination est une domination éternelle. Il est esprit, son royaume est spirituel. Il est immortel, son royaume l'est aussi. Il est lumière, sa demeure l'est aussi. Dans le royaume il n'y a aucune souillure, et il n'y en aura jamais. Il est éternellement glorieux, une habitation paisible. Il est insondable et indicible. En lui tous ceux qui croient en viennent à jouir de celui qui est la plénitude de toutes choses, visibles ou invisibles, qui est éternellement la béatitude même, qui fait participer tous ceux qui croient en lui à son royaume, sa grâce, sa puissance, sa dignité, sa domination et sa gloire céleste. Mais ces choses sont cachées au monde à ceux qui ne sont pas rachetés de la terre. Lorsque Christ enseigna ses disciples, il les exhorta à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6:33. Même lorsqu'il était dans le corps, il dit aux pharisiens, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Certains diront, « Alors avons-nous besoin de chercher ce qui est déjà en nous ?» Oui, c'est comme un trésor caché dans un champ. C'est comme un grain de sénevé parmi bien des grandes semences qu'on ne trouve pas aisément. C'est comme une pièce d'argent perdue dans la maison parmi beaucoup de rebuts. Tant que tout le rebut n'est pas balayé, on ne la trouvera pas. Chacun doit creuser profondément, chercher étroitement et balayer soigneusement avant de le trouver, car bien que Christ ait dit aux pharisiens, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il n'a pas dit qu'ils en étaient possesseurs. Aux disciples qu'il enseignait à prier avec foi, « Que ton règne vienne », il dit, « Bienheureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Luc 6:20, il l'avait vu et en était possesseur. Et il leur dit aussi, « Il y en a parmi ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance ». Marc 9:1 Et ces paroles furent accomplies, et ils déclarèrent ce qu'ils avaient éprouvé, et dirent, « Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. » Et Paul, écrivant aux Romains, qui était devenu participant de la même puissance et du même royaume, dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Rome 14, 17. Et aux Colossiens, qu'il avait attendus et y avait cru, il dit « Le Père nous a rendus capables d'être participants de l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et aux Hébreux, il dit « Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Ces choses furent attestées tandis qu'ils étaient dans le corps et ressenties au-dedans par la semence immortelle, par ceux qui furent témoins de la naissance immortelle vivant en eux. Et tous ceux qui viennent à voir le royaume de Dieu, qui est spirituel, doivent attendre dans l'esprit, afin que Dieu et son royaume, et les choses de son royaume, soient ressenties, vues et goûtées ce qui est glorieux. Les saints ne cherchaient pas une autre gloire, sinon celle qui se tenait dans la vie éternelle. Et la cité qu'ils cherchaient était celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et ils attendaient et espéraient recevoir de sa puissance, dans laquelle le royaume consiste en cette vie, et de connaître et goûter sa domination et son autorité éternelle. Je ne parle pas du plein poids de gloire, que tous ces saints, chacun selon sa mesure, attestent et en son temps, viennent à goûter par la foi. Car par la foi ils en vinrent à voir celui qui est invisible, et les choses de son royaume qui est invisible, spirituel et éternel. Le royaume de Dieu s'est approché de beaucoup, et sa puissance et le salut de Christ sont vus par beaucoup. Honneur et louange à lui éternellement, qui est le seul souverain, qui met toute autorité sous ses pieds, afin que Dieu soit tout en tout. Mais chacun doit d'abord venir à sentir le royaume en lui-même, comme un petit grain, et y croire avant de savoir où il consiste. Après qu'il est connu dans une certaine mesure, cela est encore fort loin du poids éternel de gloire. Pourtant celui qui croit est entré dans le repos et est devenu participant du don céleste, de la puissance et de la grâce qui est glorieux, et il atteste une place céleste en Christ Jésus. Mais il reste néanmoins beaucoup d'ennemis à soumettre, et beaucoup de l'habitation céleste, qu'il ne voit pas à révéler à mesure qu'il y a une demeure dans la puissance de Dieu, dans laquelle le royaume consiste. Car Israël, le vrai type, après avoir passé le Jourdain, pris Jéricho et Haï, et fait une entrée dans le pays, avait encore beaucoup d'ennemis à soumettre, et il y avait beaucoup du pays dont ils ne furent pas possesseurs avant longtemps. De même, après qu'une entrée est faite dans le vrai repos et qu'on en jouit en partie, il y a encore beaucoup d'ennemis à soumettre, et bien davantage de l'héritage céleste à goûter par ceux qui se tiennent dans la puissance, qui donne domination sur le péché et le diable, l'enfer et le tombeau, et ceux-ci en viennent à être faits participants de Dieu et à recevoir, en son temps, la couronne immortelle. Ainsi pour conclure, je dis à tous ceux qui aspirent à Dieu et attendent de sentir sa puissance, attachez votre esprit à la mesure pure du Saint-Esprit de Dieu, et là attendez de voir son royaume et sa domination, et d'en devenir participant, et de celui qui est glorifié avec le Père, dans son royaume de la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde fût, car quiconque en vient à jouir du royaume de gloire, qui ne se flétrit pas, est éternellement heureux. Chapitre I Sélections abrégées d'un ouvrage intitulé « La gloire de la vraie Église découverte ». Ô lecteur, Dieu, dans sa grande sagesse, a en tous les âges manifesté sa volonté à ses serviteurs, et dans chaque génération, il leur a montré comment ils voulaient être adorés. Ceux qui ont été obéissants à ce qui a été rendu manifeste ont, en tout âge, trouvé faveur auprès du Seigneur et ont eu la paix de Dieu dans leur cœur. Après que l'homme eut transgressé contre la volonté de Dieu et rompu son alliance, l'aveuglement vint sur lui, et il convoita les choses terrestres, et l'image de Dieu, dans laquelle il avait été créé, fut perdue. Pourtant, tel fut l'amour de Dieu envers l'homme qu'il ne le rejeta pas entièrement pour toujours, mais il le poursuivit pour le ramener hors de la transgression dans l'unité avec lui-même. Quand l'homme entra dans les ténèbres, le Seigneur s'abaissa jusqu'à s'approcher de lui et de l'état où il était. Il fit une alliance avec lui lorsque son cœur était tourné au dehors, vers les choses extérieures, et il lui donna des commandements, statuts et ordonnances extérieures, afin qu'il y rende un culte, lesquels étaient des ombres et des types de meilleures choses à venir. Les ordonnances de la première alliance qui devaient être changées, mais elles préfiguraient des choses plus célestes, qui devaient être révélées en leur temps, et lorsque Christ la semence vint lui qui ramène à Dieu tous ceux qui croient, elles prirent fin et passèrent, car Dieu se manifesta plus clairement dans la chair par son Fils, qui avait la volonté du Père et l'a déclaré, qui mit fin aux ombres et effaça l'acte écrit des ordonnances consistant en type et figure, et s'offrit lui-même sur la croix en propitiation pour les péchés du monde. Ceux qui crurent en Christ et le reçurent en vinrent à être fils de Dieu, et déclarèrent la pensée de Dieu telle qu'elle leur était révélée, et l'Esprit leur donna l'expression. Ils devinrent d'un seul cœur et d'une seule pensée, et adorèrent Dieu d'un commun accord, dans l'Esprit et la puissance du Père. Ils se séparèrent du culte juif et de sa forme, et se réunirent dans la puissance de Dieu, le glorifièrent, et parlèrent librement des choses de son royaume à tous ceux qui l'attendaient. Mais peu après que le mystère de la piété eut été révélé, le mystère de l'iniquité se mit à agir et s'opposa à l'œuvre du Seigneur. Toutefois, il se transforma en une similitude, une apparence extérieure, une forme de justice, et vécu dans la chair. Il y eut alors une apostasie et une déviation d'avec cette gloire et cette puissance qui avaient existé autrefois. Et l'Antéchrist opéra avec des signes et de faux prodiges, et s'empara des paroles des justes, mais haïssait la vie et la puissance de la piété, ainsi que ceux en qui elle apparaît. Alors ceux qui étaient sous le gouvernement de l'Antéchrist haïssaient le règne de Christ et disaient en leur cœur, « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, bien qu'en parole ils le confessassent. » Ils persécutèrent la vraie Église et la chassèrent dans le désert, et ils établirent des imitations, des inventions, des traditions et de vaines coutumes, qu'ils appelèrent institutions apostoliques et saintes, mais qui sont contraires aux institutions et ordonnances primitives du christianisme. Je vous ai ainsi conduit brièvement à travers plusieurs âges et époques, afin de dégager l'origine et le commencement de ces choses qui sont maintenant tenues pour des institutions sacrées, et de montrer qui en furent les premiers ordonnateurs, entre les jours des apôtres et le temps présent. Vous pourrez voir, dans le traité qui suit, l'état et la gloire de la véritable Église avant l'apostasie et son état pendant l'apostasie, comment elle s'enfuit dans le désert, et comment le mystère Babylone fut élevé et l'Église fausse se déclara visible. Ces doctrines et pratiques, contraires à l'Église primitive, y sont aussi mises au jour, par quoi vous pourrez voir la différence entre les ordonnances de la véritable Église et les traditions et inventions de la fausse Église. Chose que l'on défend avec trop d'ardeur en ce temps-ci par ceux qui disent qu'ils les protestants sont parvenus à la vraie réforme selon les temps primitifs, mais dont les pratiques, lorsque vous les comparez à celles des temps primitifs, vous verrez qu'elles y sont tout à fait contraires et qu'elles ne sont que comme la fumée et ce qui. Mais le Seigneur s'est levé, et ce qui s'est élevé dans l'apostasie est vu et mis à découvert aux yeux de tous, afin qu'il sorte des choses qui ne sont que les inventions et les traditions des hommes, et dans lesquelles on ne peut obtenir la vie éternelle. Lisez avec douceur, et dans ce qu'il y a de spirituel en vous, par quoi les choses de Dieu sont rendues manifestes, car avec cela j'ai unité, et à mesure que vous y vivez et y marchez, je vous fais mes adieux. Francis Raugel, section Il état de la véritable Église, depuis la manifestation du Christ dans la chair jusqu'à la fin des jours des apôtres, brièvement exposé. Dieu, selon sa volonté déterminée et son conseil éternel, dans la plénitude des temps, a envoyé dans le monde son Fils unique engendré, pour être la lumière du monde, un guide pour le peuple, et une propitiation pour le secours du monde entier. Il obéit en toute chose à la volonté du Père, comme cela avait été rendu témoignage à son sujet par Moïse et les prophètes, et comme David l'avait dit à son sujet, « Dans le rouleau du livre il est écrit de moi, « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Hébdis 7. Il accomplit toute justice et mit fin à tous les types, figures, ombres et occultes de la première alliance, comme l'apôtre en rend témoignage à son sujet, Hébreux 7-18. La loi et le sacerdoce furent changés. Ils n'étaient que figures et ombres des biens à venir, et étaient défectueux, et ne rendaient pas parfaits en conscience ceux qui entraient dans l'alliance. Mais il introduisit une meilleure espérance et une alliance meilleure, à savoir l'alliance de vie et de paix, dont les prophètes par l'Esprit avaient rendu témoignage depuis Moïse jusqu'à Samuel et jusqu'à Jean. Jean aussi rendit témoignage de celui qui est l'agneau de Dieu et qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29-36. Puisqu'il est maintenant venu, lui qui n'a pas été fait selon la loi d'un commandement charnel, comme Aaron et les autres prêtres sous la loi, mais selon la puissance d'une vie impérissable, et s'étant offert lui-même une fois pour toutes, pour rendre parfaits ceux qui sont sanctifiés, il mit fin à toutes les offrandes de la première alliance. Hébdis 14. Il accomplit toutes les choses que les prophètes avaient prédites de lui, et ses œuvres témoignaient qu'il était le Fils de Dieu. Il prêcha la parole du royaume et déclara contre ceux qui restaient attachés aux figures, types et ombres, scrutant les Écritures dans l'espoir d'y trouver la vie éternelle, et dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, je suis le pain de vie. » Il vint accomplir la loi et toute justice et publier la parole de la foi, qui n'abolissait pas la loi mais l'établissait. Il dit « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Il adressa cela aux pharisiens, qui avaient la loi et les prophètes, et agissaient dans les types et figures, qui sont des ombres de la chose elle-même, mais non la chose même, mais lui prêchaient la chose même, la parole du royaume de puissance et de vie, et beaucoup qui entendirent sa voix, et qui ne pouvaient être rendus vivants en s'exerçant dans les ordonnances, furent vivifiés en leur cœur et en leur esprit, et vinrent ainsi à vivre, et il choisit des disciples pour lui, et les envoya prêcher la repentance, et leur ordonna de commencer à Jérusalem. Ensuite, il envoya aussi ses disciples et leur donna le commandement de prêcher à toutes les nations, et de faire des disciples, ou des convertis, de tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons et d'accomplir des miracles. Ceux-ci, après un temps, prophétisèrent la parole du royaume, et reçurent des dons du Saint-Esprit pour l'œuvre du ministère. Il ne prêchait pas les ordonnances de la première alliance, mais Christ, l'alliance éternelle, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour la rémission des péchés, et ils annonçaient la parole de foi dans la bouche et dans le cœur, afin d'amener les gens à croire en celui qui est la lumière du monde, et qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et beaucoup, tant parmi les Juifs que parmi les païens, crurent, et ils se rassemblaient en certains lieux. Et les diverses assemblées n'étaient qu'un seul corps, dont Christ, la vie, était la tête, et ils avaient goûté à sa puissance. Quand ils se réunissaient, ils s'exhortaient et s'avertissaient les uns les autres, et ils œuvraient à l'édification, à la construction et à la consolation les uns des autres dans la très sainte foi, qui leur donnait la victoire sur le péché. Foi qui était opérée en eux par l'écoute de la parole qui était près d'eux, dans la bouche et dans le cœur, et qui était la parole de consolation qui était au commencement. Ceux qui crurent à l'Évangile grandirent dans de grandes jouissances et de grands progrès dans la vie juste de Christ. Et bien qu'ils aient d'abord connu le ministère de la condamnation et la sentence de mort, ils en vinrent ensuite à connaître le ministère de l'Esprit, portant témoignage qu'ils étaient fils de Dieu. Ils furent faits héritiers selon la promesse et cohéritiers avec Christ dans le royaume qui est immortel. Ceux qui furent envoyés, ayant reçu gratuitement du Père, de Christ et de l'Esprit, servaient gratuitement, sans conclure aucune alliance ni rechercher des revenus mondains, mais allaient de ville en ville prêchant l'Évangile. Ainsi, nous ne lisons nulle part qu'ils aient exercé une contrainte, ni exigé un entretien forcé de la part d'aucune ville, qu'on y crût ou non. Le Père prenait soin de tels moissonneurs, et ce qu'ils recevaient était donné librement, et il n'y avait aucune plainte. Mais leur souci était de ne pas rendre l'Évangile de Christ pesant ni coûteux, mais plutôt que leurs mains pourvoient à leurs besoins. Acte 18, 3. Raugel suit le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.